10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, l'islam au présent, une heure pour parler d'islam tour.
Tous les samedis sur Beurre FM.
Attends, j'ai un souci de micro. Voilà, on règle ça. Le cher Youssef Hachmaoui vient d'arriver. On est right on time, hein, pile à l'heure. Ça va, cher Youssef?
Ça va très bien, et vous?
Très bien. Je rappelle que vous êtes imam, fondateur de Janaza France, apiculteur à vos heures.
Effectivement, c'est bien ça.
Voilà. Et pendant que l'imam Abdelali Mamoun est en vacances,
pas mal, hein.
Voilà, vous assurez la relève. Hein, donc,
il y en a qui ont de la chance.
Voilà, mais c'est pour ça que vous êtes le remplaçant officiel. Bon, est-ce que vous avez pris votre billet d'avion, vous?
Pas encore.
Vous attendez quoi? Que ça baisse?
Non, en fait, j'attends juste que les passeports soient prêts, tout simplement.
Comme tous les ans.
Ils sont censés être prêts là depuis 15 jours, et tous les jours on me dit d'ici 2 jours, d'ici 3 jours. J'attends toujours.
Ça, c'est incroyable, cette histoire de passeport.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Bien, on va parler de méditation ce matin. La méditation qui est très à la mode. Hein.
Oui, tout à fait.
Hein, beaucoup de gens partent même méditer pendant leurs vacances d'été.
Effectivement.
Qu'est-ce que ça signifie que la méditation au sens spirituel? Est-ce qu'il y a déjà un terme en islam pour parler de méditation ou pas du tout?
Tout à fait. Il y en a un essentiellement, et après il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de dérivés. Cela veut dire que la méditation, on a des lexèmes, donc des termes en arabe, et des fois que certains vont traduire par méditation. Alors méditation, maintenant sur le sens étymologiquement et sur le sens, il y en a principalement deux. Le Coran insiste énormément et parle énormément de méditation. Vous savez, Philippe, que dans le Coran, nous avons près de 1500 versets, c'est quand même énorme, 1500 versets, qui traite de l'univers, des sciences, du cosmos, du monde et de l'humain. Mais de l'humain, des créatures et de la création. C'est énorme. 1500 versets sur 6000. Cela veut dire que c'est quand même le quart du Coran qui traite des sciences et de l'univers. De l'homme comme des animaux, comme de la création et des créatures. C'est énorme. Néanmoins, alors maintenant, pour y venir, et on va bien sûr parler par la suite de coraniquement et prophétiquement ce qu'il en est, on savait que le prophète alayhi salatu wassalam passait des heures, voire des jours dans la grotte de Hira, à quelques kilomètres de la Mecque. Il passait ces temps-là avant même l'avènement de l'islam, même si on dit que l'avènement de l'islam date du prophète Abraham et pas seulement de Mohammed. On dit donc lorsque Mohammed a été envoyé et pas l'avènement de l'islam, parce que l'islam est né avec Abraham. Cela étant, le prophète alayhi salatu wassalam, on le sait, sortait pendant des jours et des jours, s'isolait complètement en pleine méditation dans la grotte Hira. Et la révélation lui a été parvenue alors qu'il était dans cette même grotte, lorsque l'archange Gabriel est venu et lui a formulé cette formule magique et très connue qui est Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Néanmoins, maintenant, pour répondre à votre question, Philippe, nous avons différents thèmes, dont celui de muraqaba. Ça veut dire quoi, muraqaba? M-U-R-A-K-A-B-A, muraqaba. Généralement, c'est traduit par méditation. Mais ça signifie en vérité plutôt des points de vigilance. L'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des noms divins, il y en a 99, vous le savez, est Ar-Raqib, celui qui sait toutes choses et rien n'échappe à sa science. De notre côté, en tant qu'être humain et singulièrement en tant que musulman, on aspire aussi à devenir Raqib, c'est-à-dire un de ceux qui veillent à préserver en eux la conscience et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, cela peut s'acquérir uniquement par la méditation quotidienne. Car cette méditation, elle a quand même pour but de construire consciemment en soi la conscience et la présence d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire d'établir une connexion entre soi et Dieu, entre notre cœur et Dieu. C'est pour ça qu'on appelle surtout muraqaba. Le Coran va beaucoup nous parler de وَيَتَفَكَّرُونَ. Donc ils vont pleinement méditer fi khalqi, dans la création, السماوات, des cieux et de la terre. Ô Seigneur, tu ne nous as pas créés en vain. Ma khalaqta hada batilan subhanak. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Donc on parle beaucoup de wayatafakkarun, donc ils vont méditer pleinement sur les signes divins. Mais ils vont méditer de quoi? Ben, ils vont méditer pleinement sur les créatures et la création. Et en méditant, j'aimais bien cette parole de l'Arbi Keshat qui disait, en méditant sur la création, on saisit le créateur. Et en méditant sur la création et les créatures et leur grandeur, on saisit la grandeur du créateur. Donc pour connaître et saisir et comprendre le créateur, on a besoin aussi de méditer sur la création et les créatures. Pour se dire, je ne suis pas présent ici sur Terre en vain, mais si je suis présent ici, j'ai besoin de connaître mon existence, le secret de mon existence et le but ultime de mon existence qui est pour nous musulmans uniquement un petit passage sur Terre.
Cher Youssef, ce qui veut dire que si je vous comprends bien, qu'on ne médite pas sur Dieu.
Aujourd'hui, oui. On médite sur Dieu.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, tout à fait.
On médite sur les créatures, sur la création, mais pas sur Dieu.
Alors,
est-ce que ça veut dire que ça serait interdit?
Ah non, ce n'est pas interdit. On doit bien sûr méditer sur Dieu, parce qu'on doit même méditer ses signes et méditer ses noms. Ses attributs, d'accord. Ouais. On doit les méditer et les comprendre. Ce n'est pas uniquement les apprendre. Parce qu'on a un texte prophétique qui nous dit « Celui qui les mémorisera, qui les parcourisera, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a 99 attributs, littéralement c'est dit comme ça, hein, a 99 attributs, celui qui les mémorisera, celui qui les saisira, entrera au paradis. » Mais ce n'est pas comme ça. On peut pas comprendre ça littéralement. Celui qui va en saisir mais les sens va les comprendre et les assimiler finement pour les appliquer aussi finement. Ce qui va se dégager de ces sens et de ces dimensions dont on doit justement les assimiler afin de les concrétiser chez nous, en nous. Sinon ce serait trop facile. Tout le monde délaisserait la pratique en se disant « Je vais apprendre 99 noms et j'ai une garantie d'accès au paradis. » C'est stupide. Donc voilà. On médite sur Dieu, mais on médite, alors bien sûr on médite sur Dieu qui est notre créateur, mais on médite aussi sur sa création et ses créatures pour comprendre l'univers dans lequel nous sommes et ce à quoi nous avons été appelés, ce pourquoi nous avons été créés et vers quoi nous sommes appelés et nous sommes destinés.
Est-ce qu'il y a une façon de méditer en islam ou peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs?
On pourrait pas dire une, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs.
Alors, des façons, est-ce qu'il y a des postures? Est-ce que c'est quelque chose qui a été légiféré ou pas du tout?
Alors, maintenant, vous dire, comme on peut lire dans certains ouvrages, l'être humain doit se dresser au niveau de la Kaaba, en direction de la Kaaba, ça oui, il n'y a pas de souci. Doit se poser à genoux, les mains tendues sur les genoux, avec l'index et le pouce. C'est la méditation, c'est pas non plus du feng shui. Voilà, on est dans de la méditation en islam. Je peux être accroupi. Le Dieu même nous le dit, nous parle justement de ces rapprochés et de ces bien-aimés qui méditent sur lui toute la nuit ou en grand une partie de la nuit. Le Coran nous dit, ils s'arrachent à leur couette, ils s'arrachent à leur duvet. Cela veut dire qu'ils dorment confortablement dans leur duvet et ils vont s'arracher de leur lit. Voilà, tatajaf. Ils sont en train de dormir et ils vont s'arracher à leur lit, ils vont s'arracher à leur couette afin de méditer Allah subhanahu wa ta'ala la nuit et passer un temps en méditation et un temps justement en rappel. Le rappel divin qui doit se faire avec une pleine présence du cœur et une pleine présence de l'esprit. La prière en soi est un temps de connexion et de méditation. On pense que la prière, c'est uniquement une pratique. Non, c'est un temps de méditation et un temps de dévotion. C'est pourquoi le Coran nous dit « وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » Lorsque vous priez, vous devez être en totale dévotion. Cela veut dire déconnecté de tout. Aïcha, l'épouse du prophète, le disait. Si, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait bien s'amuser avec ses proches, avec les enfants, avec ses compagnons, avec son épouse, etc., etc. Et lorsqu'on faisait appel à la prière, il se coupait de tout, il faisait comme si qu'il ne nous connaissait plus. Cela veut dire qu'une fois que nous sommes appelés à la connexion, ce pourquoi d'ailleurs il y a 5 prières quotidiennes. Cela veut dire que nous avons le droit, bien sûr, à travailler, à étudier, à bouger, à voyager, etc., etc. Mais nous avons aussi besoin d'un temps de déconnexion où nous avons un temps, voilà, ce temps de déconnexion pour la méditation. Vous voyez, dans certains pays comme au Japon ou autres, on déconnecte parfois du bureau quelques minutes durant la journée afin de fermer ses yeux et être en méditation pendant quelques minutes. Alors, il médite quoi? Je ne sais pas. Mais il médite pendant quelques minutes au bureau et apparemment, disent-ils, ça leur permet d'être beaucoup plus productifs dans l'après-midi. Donc, toujours après la pause déjeuner, les Japonais reviennent dans leur bureau respectif et font un petit temps de méditation pendant 2, 3, 5 minutes et ensuite reprennent le travail. Maintenant, nous méditer d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un temps pour cela et il y a différentes formes. Les compagnons du prophète, lorsqu'ils se croisaient à Médine, l'un d'eux rencontrait son frère et lui disait quoi? Ta'al, viens, nous allons croire pendant une heure. Alors qu'ils étaient déjà croyants. Ta'al, nu'min sa'a. Mais ils sont déjà croyants. Ils vont croire de quoi? Cela veut dire viens et ensemble nous allons cheminer spirituellement, nous allons progresser spirituellement. Et comme le dit aussi le hadith du prophète, al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Cela veut dire que le croyant est fort grâce à son frère. Cela veut dire qu'ils vont se soutenir mutuellement. C'est pourquoi on nous dit que lorsque nous dormons ensemble, les croyants sont censés justement s'élever les uns grâce aux autres. Si aujourd'hui j'ai un temps de mou, j'ai un temps de faiblesse, mon voisin justement de chambre va me réveiller. C'est le cas par exemple lorsqu'on voyage à la Umrah ou au Hajj. Généralement on aime se mettre dans une chambre avec peut-être avec quelqu'un avec lequel on est lié d'amitié. C'est forcément pas la bonne solution. Autant se mettre avec une personne dont on sent, dont on croit qu'elle va plus nous aider spirituellement à progresser. Des fois, on a un temps de mou. Peut-être qu'on a passé une longue journée, on est très éreinté par le travail, par ce qu'on a fait, etc., etc. Et lorsque nous sommes dans une chambre avec quelqu'un qui est aussi fort spirituellement, va nous aider. Un jour, c'est moi qui vais l'aider, et demain, c'est lui qui va m'aider. Donc justement, nous avons besoin de ça. Donc Ta'al nu'min sa'a, pour revenir à ça, les compagnons se disaient mutuellement, viens, nous allons croire pendant une heure. Et pendant cette heure, c'était un temps de dévotion, de méditation. Imam al-Ghazali, qui a été l'imam par excellence, le grand imam par excellence, Hujjatul Islam, donc l'imam al-Ghazali du 11e et 12e siècle, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, le grand philosophe connu, lui-même a écrit justement dans ses revivifications des sciences, Ihya Ulum al-Din, et il nous parle longuement de méditer le cosmos, méditer l'univers. Méditer le cosmos et méditer l'univers pour arriver justement à saisir, c'est un petit peu ce que j'ai dit l'armée Kachat, hein, mais pour arriver à comprendre et à saisir pleinement l'amour et la grandeur du Créateur. Parce que c'est en connaissant la grandeur de la création et des créatures qu'on arrive à comprendre la grandeur du Créateur.
Mais ça veut dire quoi méditer le cosmos et l'univers?
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit dans 1500 versets coraniques, il nous parle de science. Il nous a pas parlé de science, il nous parle pas uniquement de signes scientifiques. Parfois oui, de quelques miracles scientifiques. Mais il nous parle surtout, vous avez des versets où le Coran nous dit, أَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. N'est-il pas venu le temps pour eux de méditer sur les bêtes, sur les animaux, sur le monde végétal, sur le monde animal, etc. Nous avons des versets où Allah nous dit أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. N'est-il pas venu aussi le temps pour eux d'aller explorer le monde afin d'en comprendre les signes divins à la fois des terres et des cieux. Parfois il nous dit de la terre et parfois il nous dit des terres et des cieux. Et donc, dans différents passages coraniques, nous avons أَوَلَمْ يَسِيرُوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Cela veut dire, n'est-il pas venu le temps pour eux d'aller explorer le monde, d'aller explorer la terre, afin de comprendre mes signes divins? Parce que je ne peux pas rester comme ça dans mon coin en me disant, voilà, l'être humain a besoin de réfléchir en soi, surtout pour se comprendre lui-même, et ce pourquoi il a été créé sur terre.
Si vous voulez rejoindre la conversation, on parle de méditation ce matin et poser vos questions au cher Youssef Hachmaoui, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de méditation en islam avec le cheikh Youssef Hachmaoui, imam et fondateur de Janaza France. On parle de méditation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vocable qu'on entend beaucoup, hein, beaucoup de gens méditent. Vous étiez en train de définir ce que c'était que la méditation, mais le Coran est un formidable support pour méditer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des versets qui sont plus propices à la méditation que d'autres?
Tout à fait. Notamment ceux qui vont traiter, bien sûr, de l'amour divin, de l'amour du prophète, de l'amour de son prochain. Ceux qui vont, bien sûr, traiter aussi de l'au-delà, de la géhenne, du paradis.
De là?
De tout ce qui va être.
Bah,
géhenne, jahannam, voilà, ah. L'enfer, le paradis, etc. Donc il était important, c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant 13 ans à la Mecque, n'a pas parlé de prière, excepté de prière 18 mois avant l'Hégire, mais sinon, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas de pèlerinage, il n'y avait pas de zakat, etc. N'a cessé d'instruire les gens et d'instruire les cœurs vers l'amour du divin. Ils sortaient quand même, c'était quand même des gens qui étaient versés pleinement dans le polythéisme, donc il fallait quand même les sortir du polythéisme vers l'unicité. C'était pas quelque chose de simple. Lorsqu'on est musulman et lorsqu'on est né musulman dans l'obédience musulmane, ça nous paraît tellement simple. Mais aujourd'hui, une personne qui n'est pas croyante et a fortiori qui est croyante mais qui est polythéiste, etc., et qui croit aux idoles le sortir de cette ornière et l'amener dans l'unicité, c'était quelque chose d'inimaginable à l'époque. Et donc, à travailler sur ça, une fois qu'il les a sortis justement du polythéisme, il fallait aussi travailler, parce que même à Aïcha, on lui posa la question, mais qu'a-t-il fait pendant 13 ans à la Mecque? Et il leur disait, il n'a fait que construire, que nourrir les cœurs du sentiment et de la présence divine. Car le musulman, justement, ce qui va le solidifier, le fortifier, et il va être solide. On va voir que, par exemple, il y a des musulmans qui ont les mêmes textes, qui ont les mêmes énoncés coranico-prophétiques, etc. Certains sont déviants, et certains sont, je dirais, très clairvoyants, pour ne pas dire pratiquants, parce que pratiquants, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pratiquants et très clairvoyants, et on était très conscients de la présence de Dieu en tout temps et en tout lieu. Ça s'acquiert bien sûr par de la muraqaba, de la vigilance, et par de la méditation. Cela veut dire que l'être humain va se dire, attention, je ne suis pas seul, il y a quand même Allah subhanahu wa ta'ala qui veille sur moi, pas qui me surveille, mais qui veille sur moi et qui me protège. Telle chose est licite, je vais la faire, je vais m'y rendre, je vais la contractualiser, etc. Et telle chose est douteuse ou illégale, je vais m'en abstenir. Pourquoi un tel irait pratiquer et l'autre irait délaisser cela? Parce que l'un est accompagné et amouraché par la présence divine, ce qu'on appelle, voilà, al-muhasaba et al-muraqaba, cela veut dire est amouraché par la présence de Dieu, et l'autre non. Et c'est pourquoi l'un est nourri, quand je dis qu'il est nourri, cela veut dire qu'il a fait ce travail sur lui. Ça peut être tantôt le matin, tantôt le soir, tantôt l'après-midi, il n'y a pas de temps spécifique pour ça. Il est vrai que nous avons ce temps, parce que wabil ashari hum yastaghfirun, ce temps qui est justement juste un petit peu avant l'aube, avant la prière du matin, où justement les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont présentes, et où bien sûr ce temps sera arrêté et sera enregistré et viendra témoigner au jour de la résurrection, parce que le Coran nous dit inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, donc sa lecture, mais plutôt sa méditation, bien sûr, sera présente, sera enregistrée et viendra justement sur un plan testimonial, donc viendra témoigner en faveur de la personne qui l'a invoqué et évoqué. Donc c'est ça qui est aussi important. Mais une personne n'a pas pu pour X raisons. Après, il est vrai que dans certains pays, c'est très présent. Et c'est une très très bonne chose. Vous avez certains pays, malheureusement, où les mosquées sont présentes, sont ouvertes, il y en a des milliers. Les gens, c'est je rentre, je fais mes ablutions, je prie, salam alaikum, le salut final, et je me sauve. Il y a certains pays, notamment comme en Syrie, là où nous avons grandi, après les prières, il y a toujours ces temps de recueillement, ces temps de méditation, ces temps de rappel spirituel qui peuvent durer parfois 5 à 10 minutes, notamment après la prière du Fajr le matin, où il y a vraiment des petits cercles qui vont se former, et pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ils vont avoir ces temps de méditation, ces temps de rappel, ces temps d'invocation, ces temps d'évocation, et ensuite ils vont se disperser. C'est un temps hyper important où on va alimenter, où on va entretenir et on va nourrir, on va se nourrir mutuellement, spirituellement. Donc ça c'est important, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de temps.
Hein. 10 minutes de méditation, ça veut dire que c'est suffisant.
C'est déjà énorme.
C'est ça que
dans
ça
la
dire.
Constance, bien sûr, dans la constance.
Oui. Comme le disait. Voilà. Quand on dit constance, voilà. Ça veut dire que ça doit être une pratique régulière et quotidienne.
Tout à fait. Ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, et ne serait-ce que 10 minutes, mais de manière régulière, c'est ça qui importe le plus. Cela veut dire même, le prophète alayhi salatu wassalam disait à Aïcha, son épouse, Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qall. Cela veut dire les meilleures actions, les actions pies, les meilleures actions, les plus rapprochées, les plus aimées d'Allah Azza wa Jal sont celles qui sont pérennes et constantes, même si elles sont minimes. Donc même si elles durent très peu, mais elles sont constantes, et préférable d'y consacrer un samedi matin ou un dimanche matin ou un vendredi soir, et après on ne fait rien de la semaine. Parce que ça, c'est un temps d'alimentation qui est hyper important. Ibn al-Qayyim a écrit l'un des meilleurs ouvrages et qu'on appelle justement les méditations d'Ibn al-Qayyim. C'était l'un des disciples d'Ibn Taymiyyah, donc du 13e et 14e siècle. Et dans son ouvrage qu'on appelle méditation, en arabe on appelle ça al-fawaid. Fawaid, bien sûr, c'est bien sûr les intérêts. Mais ici c'est vraiment au titre de méditation. Une méditation par jour qu'on peut justement, avec lesquelles on peut faire bien sûr des cercles de rappel spirituel, et on peut parler de chaque qualité de chaque méditation. Lui-même nous dit que le musulman a besoin de ce temps, ces 10-15 minutes dont vous parliez, ces 10-15 minutes au quotidien. Et comme il nous fait bien sûr une parabole, et il nous dit, l'être humain, le musulman, est comme le poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau peut-il vivre, non pas respirer, peut-il vivre sans eau? Non. Tout comme l'être humain, il ne peut pas vivre sans méditation et sans évocation et invocation au quotidien. Donc cette touche spirituelle, on en a besoin au quotidien et on va pas y consacrer. C'est devenu le grand business aujourd'hui. On va aller dans les Landes et on va aller dans l'Aube ou dans le Gers ou je ne sais où, ou encore dans le Sahara algérien, et on va se couper du monde pendant 10-15 jours. Pas de téléphone, pas de réseau, etc. Dans des tentes, dans le Sahara de Djanet, et là on se coupe du monde pendant 15 jours. Et le reste de l'année on fait quoi? Donc c'est pas forcément
ce que vous proposez, c'est bien comme idée.
Bah oui, mais
à Djanet et puis
il y en a qui le font, il y en a qui vont même beaucoup plus loin. Il y en a qui vont se couper du monde.
Est-ce que c'est aussi beau qu'à Djanet?
Comment? Je ne sais pas, mais vous savez qu'il y en a même qui vont se couper. Nous on le voyait en Syrie par exemple, c'est l'une des dérives qu'on a vu en Syrie. Les gens qui allaient tout plaquer pour se dire je vais aller m'installer à Médine. Pourquoi à Médine? Je vais m'installer à Médine afin d'être dans la proximité du prophète et afin d'être l'invité. Alors invité par qui, je ne sais pas, mais je suis l'invité du prophète pour être le nouveau voisin du prophète.
Je suis sûr que si vous organisiez et alors là des semaines de méditation dans le désert, ça serait blindé.
Alors là, écoutez, on pourrait le faire prochainement. Ramra. Ouais.
Je parlais pas de la Ramra,
il y a un grand désert saoudien, on pourrait faire un petit peu de méditation, mais bon, sous 48 ou 50 degrés sous les tentes, ça va être un peu difficile. Mais effectivement, il y en a qui l'ont fait. Moi, je connais, j'ai des amis de la famille qui ont fait ces temps-là, quoi, qui sont partis, qui se sont coupés du monde pendant une bonne semaine, 10 jours. À Djanet et ailleurs, pourquoi pas, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas singulariser et on ne peut pas se dire on va faire ça 2 semaines, 10 jours dans l'année et tout le reste de l'année on fait quoi après? Si c'est un début, oui, c'est un début pour rester constant toute l'année.
Vous êtes en train de vous mamouniser.
La
mamounisation, c'est quand on vous fait un signe de vous arrêter et que vous continuez à passer. Alors, parce que Yanis est au téléphone au 01 53 48 3000. Yanis, bienvenue.
Yanis, bienvenue.
Oui, alors, il va falloir enlever la radio. On vous écoute.
Oui, c'est bon, j'ai coupé. Salam alaikum.
Malikoum salam, Yanis.
Comment allez-vous?
Très bien. Et vous?
Ça va. Bon, dites-moi, j'ai une petite question qui me tracasse à l'esprit.
Quand les gens commencent par « j'ai une petite question », vous allez voir, c'est une question fondamentale, vous pouvez être sûr. C'est quoi votre question, Yanis ?
Alors, j'aime bien, comme j'écoute depuis ce matin votre radio, j'aime bien méditer sur le Coran. Et j'aime bien relever chaque mot. Après, je le lis en français, je ne sais pas si c'est pour ça, peut-être que ça va répondre à ma question. Mais je ne comprends pas pourquoi il est écrit dans le Coran. Et nous vous avons créé. Pourquoi nous vous avons créé ?
Pourquoi Dieu parle
C'est très simple.
Au pluriel.
C'est très simple. Alors déjà Yanis, c'est une bonne chose déjà de lire le Coran en français. Après, bien sûr, tant qu'on ne l'a pas lu en arabe, ce n'est pas du Coran, ce n'est pas un Coran. C'est uniquement une traduction d'essence approximative du Coran. Et donc, après, je ne sais pas quelle traduction vous avez.
Maurice Glouton,
qui est excellent d'ailleurs, comme d'autres. Hein. Mais ce que j'avais surtout à vous dire, on trouve deux choses dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui. Et tantôt, il va dire « je », et tantôt, il va dire « oui ». Pourquoi il ne dit plus « je » et il va dire « nous » ? Lorsqu'il s'agit de faits importants qui vont suivre et d'actes magistrales, comme dirait Jacques Berck, incommensurables et insupérables, il parle d'incommensurabilité et d'insupérabilité, comme il dit lui-même, deux mots très lourds. Il avait parlé de comment lire le Coran dans les jeudis de Lima, donc à Paris. Il y a déjà, à mon avis, il y a déjà plus de 30-40 ans.
Mais qu'il a traduit. Hein.
Qu'il a traduit, tout à fait.
Ouais, oui. Hein, Jacques Berck a une traduction du Coran.
Tout à fait.
Il
a fait une traduction du Coran, et d'ailleurs sans préface, sans introduction. Et lorsqu'on lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas préfacé le Coran, il a dit, Al-Qur'anu la yuqaddamu lah. Cela veut dire que le Coran n'a pas besoin de préface. Le Coran, c'est l'une des questions que j'avais posées d'ailleurs il y a quelques semaines à Mustapha Chérif, qui a brillamment répondu. Et dont on salue au passage d'ailleurs. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va parler, il va attirer notre attention lorsqu'il va dire inna, d'accord ? Il ne va pas dire inni, je, il va dire inna, il va dire nous. Et ici, c'est un nous majestueux, parce que ce qui va suivre l'est tout autant. Il va dire par exemple inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous le fîmes descendre, nous le fîmes révéler, nous l'avons révélé lors de la nuit de la prédestination. Inna anzalnahu ilayhi, il parle de quoi ? Du Coran. Nous l'avons fait descendre. Et étant donné que le fait est majestueux et que le Coran est majestueux, il ne va pas dire inni anzaltu, je l'ai fait descendre, mais nous l'avons fait. Donc lorsqu'il y a inna et lorsqu'il y a voilà nahnu, inna nahnu nazzalna dhikra, idem, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui garantissons sa protection. Et donc lorsque nous trouvons des passages coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, c'est un nous de majesté, d'accord, un nous majestueux. Lorsqu'il dit nous ici, nahnu, ou lorsqu'il va dire inna, certes nous, parce que inna c'est un taoukid, c'est une corroboration. Et donc il va dire inna, donc certes nous avons. Ici, cela veut dire que ce qui va suivre est très important et très majestueux.
Ok.
Et c'est très bien que vous parliez de méditer le Coran, parce qu'on ne lit pas le Coran. On le lit pour le lire, oui. Mais le Coran lui-même, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans près de 300 versets, va nous parler justement de méditation. Il va même nous rappeler en nous disant, mais qu'ont-ils, en parlant des musulmans, mais qu'ont-ils à lire le Coran sans le méditer ? Il va même dire justement, Afala, n'est-il pas venu le temps pour eux ? Afala yatadabbaroun, n'est-il pas venu le temps pour eux de méditer le Coran comme si leur cœur était cadenassé ? Afala yatadabbaroun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, comme si leur cœur était scellé. Donc il va souvent parler, il va même dire justement dans la sourate Al-Isra, donc dans le voyage nocturne, qui après c'était le Kahf, donc la caverne, quelques versets juste avant, où il va parler en disant, en parlant du Coran, en disant que nous l'avons fait descendre afin que les créatures puissent en méditer le contenu. Cela veut dire que le but ultime du Coran, c'est de le faire descendre, pas uniquement comme un livre d'adoration. Nous allons uniquement le lire pour le lire et pour gagner un certain nombre et pour proliférer un certain nombre de bienfaits de Hassanet. Mais c'est surtout pour le lire, pour le comprendre, comprendre le sens de notre vie et quel sens je dois donner à ma vie pour la réussir. C'est ça qui est important. Donc lire le Coran comme étant bien sûr une conception et un mode de vie afin que je puisse rythmer ma vie au quotidien selon un cadre qui est légiféré.
Et vous, Yanis, vous avez un moment qui est propice chez vous à la méditation ?
Surtout après chaque prière.
D'accord. Vous prenez quelques minutes, vous prenez combien de temps ?
Sans mentir, ça varie. Tout dépend.
D'accord. Bien.
Tout dépend.
Merci. Vous n'avez pas un temps pour... Voilà.
Non, c'est aléatoire. Des fois, ça peut varier. 5 minutes, 10 minutes. Ça varie.
Bien. En tout cas, vous êtes dans votre voiture, là, Yanis.
C'est ça. Je suis au travail.
Bien. Alors, bon boulot en écoutant Beurre FM. Merci de votre participation.
Merci à vous.
Et très bel été.
Barakallahu fi. Merci à vous aussi, très bonne vacances.
Merci Yanis. Alors on prendra d'autres questions dans un instant au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de la méditation avec le cher Youssef aujourd'hui, Youssef Hachmaoui. Et on parle des bienfaits de la méditation. On a bien compris, cher Youssef, que c'est une pratique qui doit être... sinon quotidienne, en tout cas régulière.
Tout à fait.
Sinon, ça sert à rien. Alors, quels sont les bienfaits de cette méditation ? Est-ce qu'on a des textes qui nous incitent à le faire et qui nous disent pourquoi il faut le faire ?
Tout à fait. On a beaucoup de textes, notamment dans le Coran et dans la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam, qui nous disent en fait clairement, avec des petites choses, des petits conseils qui sont très simples et qui sont vraiment à la portée de tout un chacun. C'est qu'il faut penser qu'à chaque bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, cela veut dire on se réveille le matin. On se réveille le matin déjà en sécurité. On se réveille, on n'est pas malade. On se réveille, on est proche de ses enfants. On se réveille pratiquement en France, on est plus ou moins dans un certain confort, pour ne pas dire dans l'opulence si on doit se comparer à d'autres pays. On se réveille en sécurité, alhamdoulilah, avec beaucoup de bienfaits. Et on doit bien sûr ces bienfaits au Créateur. Donc on doit méditer ça, à commencer par notre propre existence. Allah subhanahu wa ta'ala a pensé à moi, il m'a créé, il m'a donné l'opportunité d'être avec lui pour toujours, de parler avec lui, de le voir. Et le fait uniquement de se réveiller le matin, de le glorifier, de prier, de l'invoquer, de l'implorer, de solliciter son pardon, c'est déjà une miséricorde. Le fait qu'il te donne l'opportunité de te lever afin de l'évoquer, c'est déjà une opportunité, c'est déjà une chance pour toi, c'est déjà un cadeau et un présent pour toi. Donc je me dois pour cela, justement, au milieu de beaucoup d'autres créatures, Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi moi. Donc quelle immense preuve d'amour, et donc je me dois d'être reconnaissant envers lui. Pensez bien sûr aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et nous donne au quotidien, de tout ce qui nous entoure, de toutes les choses magnifiques qui ont été créées par Allah azza wa jal, de tout ce qu'il nous donne, de tous les dons qu'il nous a octroyés, de tous les bienfaits terrestres, mondains qu'il nous octroie au quotidien. Et bien sûr, on doit surtout, et on l'oublie, bien sûr le réclamer, et c'est pour ça que lorsqu'on va à Médine, mais c'est pas qu'à Médine qu'on doit le faire, c'est dans tout temps et dans tout lieu le remercier de nous avoir fait et créé et fait musulmans et avoir suivi la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, je dois aussi penser dans la méditation, c'est pas uniquement penser à Dieu, je dois aussi penser à moi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai commis la veille, voire le jour même, et pas ce que j'ai commis il y a déjà quelques années, parce que je dois encore me rappeler de cela au quotidien. Je dois aussi me rappeler de ma désobéissance, de mes manquements, de ma paresse, de le temps pendant lequel j'ai délaissé pleinement Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai certainement désobéi, tous les péchés que j'ai commis, en public, en secret, les mauvaises pensées, et on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun d'entre eux et lui demander bien sûr d'abroger et d'effacer ses péchés. on doit aussi demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse nous accompagner, nous aider, nous protéger et faire en sorte, voilà, et nous sortir des péchés et surtout de notre inconscience et de notre insouciance, de penser justement à nos besoins religieux et de lui demander de l'accompagnement et de l'aide pour chacun d'entre eux. Enfin, on doit surtout aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne guidée et de nous guider constamment dans la voie médiane, de nous aider à prendre les bonnes décisions dans le domaine religieux, comme dans le mondain modin, ici-bas, et lui demander que cet accompagnement et cette aide soient continues jusqu'à notre mort, de mourir avec la foi et avec son plein agrément. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il nous disait à chaque fois de demander à Allah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. Et husn al-khatima, c'est ça. Husn al-khatima, c'est le fait justement de quitter ce bas monde dans la foi et avec sa plénitude et son plein agrément. Husn al-khatima, ça c'est très très important, inshallah.
Quelle différence vous faites entre la méditation et la prière? Est-ce que c'est exactement la même chose?
Non, c'est deux choses différentes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on est en prière aujourd'hui, je me réveille le matin à 4h30 pour prier le Fajr. Je prie, je suis aussi en dévotion et en méditation. Parce que lorsque je formule des phrases, lorsque je vais lire le Coran, c'est une forme, je vais lire. Mais lorsque je vais dire, par exemple, « Iyaka na'abud wa iyaka nasta'in »« Oh, c'est toi que nous sollicitons, c'est toi que nous adorons. »« Iyaka » Et ici, bien sûr, « Iyaka » Allah subhanahu wa ta'ala a fait, donc c'est une restriction négative, cela veut dire toi et uniquement toi nous adorons. Donc en français, en bon français, c'est toi, donc c'est vraiment l'exclusivité. Toi nous adorons et toi, voilà, wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi et uniquement à toi, l'exclusivité encore une fois, que nous demandons accompagnement, que nous demandons soutien. Donc ça c'est hyper important et lorsqu'on va formuler tout ça, on doit être présent, l'esprit doit être présent, le cœur doit être présent, c'est pas uniquement répéter les choses machinalement, j'ai fini ma prière, je repars me coucher, sinon ça n'a vraiment aucun sens.
On parle beaucoup, pour reprendre une expression à la mode aujourd'hui, de méditation en pleine conscience.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça, la prière doit être consciencieuse, le jeûne doit être consciencieux, la zakat, le pèlerinage que nous faisons doit être consciencieux. Même la petite umrah dont on pense que le petit tawaf c'est quelque chose de bénin, c'est bah, on voit aujourd'hui les gens combien lors du tawaf à la Mecque, franchement c'est quand même effarant et vraiment désolant et alarmant de voir ça. Combien de personnes sont à la Mecque en train de faire les tournées autour de la Kaaba alors que c'est un temps de méditation et de dévotion pour nous rappeler le prophète et les prophètes, comment ont-ils vécu ce pèlerinage et comment l'ont-ils pratiqué, avec les différentes formules qu'il y a à lire et à pratiquer pendant le tawaf. Les gens font quoi? Ils font le tawaf, téléphone à la main, en train de filmer, en train de parler avec les amis, en train de parler avec le papa, le maman, qui est resté dans le pays d'origine, et ils sont en train de lui montrer ce qui se passe, en live, et puis en même temps, ça commente. Eux, c'est les Indonésiens, eux, c'est les Malaisiens, eux, c'est ceci, eux, c'est cela. Là, je fais ci, après, je vais aller là. Ah, regarde, ils sont en pleine construction avec les grues. Ils vont étendre ici, ils vont faire une extension ici. C'est un temps d'adoration. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous le dit lui-même dans un hadith. Que le tawaf autour de la Kaaba, c'est un temps de prière. C'est un temps de prière et un temps de dévotion. Et il nous dit... Il nous dit at-tawafu, donc le tawaf autour de la Kaaba, kas-salat, est identique à la prière. Illa annakum tatakallamuna fihi, excepté qu'il vous est permis de parler. Maintenant, celui qui doit parler, qu'il ne dise que du bien ou qu'il s'abstienne. فَمَنْ تَكَلَّمَ مِنْكُمْ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ. Donc, insister, فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ, cela veut dire encore une corroboration ici, qu'il ne parle que de bien ou qu'il s'abstienne. Donc, dans le tawaf, c'est où je fais les différentes formules qui ont été prescrites lorsque je fais le tawaf, lorsque je suis en train entre tel lieu et tel lieu et entre tel pilier et tel pilier, le pilier yéménite et le pilier chami par exemple, donc syrien, etc., etc. Je dois dire Allah, Rabbana atina fid dunya hasana, je dois dire telle et telle et telle chose, ou je l'ai dit, ou je m'abstiens de le dire. En plus, il est très simple aujourd'hui, même quelqu'un qui irait nous dire « Ah, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire », nous avons des guides en anglais, en français, en arabe, en toute langue, j'allais dire en indonésien, mais eux, ils sont très disciplinés, machallah, donc on n'a pas besoin de nos conseils, mais nous avons des petits ouvrages qui font à peine 5 à 6 pages, tout dépend le format, c'est vraiment le mini format, c'est à peu près 10 pages, où justement, pendant les 7 tawaf, on peut lire l'ensemble de ces invocations pour faire le tour. Et il est préconisé de le faire. Donc maintenant, si je ne peux pas, je ne suis pas lecteur, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je ne lis pas, etc., je dois m'abstenir de toute parole. Ça, c'est hyper important.
Mais finalement, méditer, ça s'apprend.
Méditer, ça s'apprend, ça s'acquiert, oui, ça s'entretient, ouais. Ça s'alimente, mais surtout, ça s'apprend. C'est pas uniquement, tiens, je vais m'isoler.
Oui, c'est pas dire, aujourd'hui, je vais méditer. Non, il y a tout un apprentissage de la méditation.
Tout à fait, il y a un apprentissage, et surtout, il y a aussi des dérives dans la méditation. Certaines personnes, aujourd'hui, fussent-elles musulmanes, mais qui ne sont pas pratiquants, vont nous dire, non, mais la méditation, c'est dans le cœur. Ça, ce n'est pas possible. Une personne qui va vous dire, non, mais la méditation, c'est dans le cœur, cela veut dire, je ne pratique pas, alors que l'un des piliers de l'islam est cela, je dois méditer, déjà je dois méditer pour mieux pratiquer. Ça, c'est vraiment important. Je dois méditer pour mieux pratiquer et redonner toute la dimension spirituelle à la prière et à nos actes d'adoration. On est trop dans de la mécanique aujourd'hui. Dans nos mosquées, dans nos foyers, individuellement, collectivement, on est trop dans de la mécanique reproductive.
C'est du pilotage automatique.
Et ça, c'est vraiment pas bon. Il y a vraiment un effort à faire là-dedans. L'effort de concentration, de dévotion, singulièrement dans la prière. On ne peut pas venir le matin, se réveiller à 4h, prendre la voiture, marcher à pied, arriver à la mosquée, et ou même idem à 14h ou à 18h ou à 22h ou à minuit et prier dans la mosquée et je ne suis pas là, je suis totalement absent. Ça, c'est vraiment pas possible. Il y a tout un effort à faire. Après, comme vous l'avez si bien dit, ça s'acquiert, ça se travaille, ça s'entretient et ça s'alimente au quotidien.
Cher Youssef Achmaoui, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Voilà. On sera encore là la semaine prochaine.
Inch'Allah.
D'accord.
Comme on dit chez nous en Normandie.
On vous signe pour la oui. Alors, en Normandie du Sud, parce que dans la Normandie du Nord, ils ne le disent pas. Du côté de Rouen, ils ne disent pas comme ça. Bien, dans un instant, vos petites annonces que vous passerez sur Beurre FM. Et puis, notez qu'aujourd'hui, entre midi et 13h, émission spéciale sur le tourisme algérien, justement.
Pas mal.
On en parlait tout à l'heure de Janet et de Taman Rasset. Mais, visiblement, ça va s'assouplir du côté des visas. Et en Algérie, on se dirige vers le visa électronique. Donc c'est bien pour les touristes. On en parlera tout à l'heure dans cette émission spéciale entre midi et 13h.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.